on a, et puis un troisième. Je me rappelle plus. Alors, de la même façon, si vous voulez, on peut dégager un ish. Un ish hatshuva. Bien qu'il n'a pas écrit le livre comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce ish halakha, et ce ish haimuna, et ce ish hatshuva? C'est un homme qui est individuel. Tout la geoula passe par lui. C'est lui qui doit considérer son monde comme étant le monde tout entier.
De diaspora et israélien, mais il est clair que c'est ce problème qui est le problème commun du peuple juif tout entier, dans sa polarité hébreu et dans sa polarité juive, c'est-à-dire araméenne moderne, de notre temps. Ken, tu veux poser une question ?
Le fait que Abraham dit à Eliezer de chercher une épouse pour son fils Yitzhak,
oui.
Et qu'il lui dit d'aller vers la terre de ses ancêtres, donc vers sa famille, et que ce Yitzhak qui est choisi, je ne sais pas si c'est comme choisi, c'est mon terme,
oui.
qui est pris, disons, ne c'est pas en plus agrandir cette difficulté que j'avais tout à l'heure entre, pour arriver à Yitzhak pour que la difficulté soit éliminée.
Je vais répondre très, très brièvement. À ce stade, non, la question est très claire. À ce stade, trouver une femme pour le fils d'Abraham. En fin de compte, le fils d'Abraham est né, c'est Isaac. Où trouver une femme pour le fils d'Abraham? Abraham donne à Eliezer, son intendant, deux consignes. Ne pas ramener Isaac de là d'où Abraham est sorti. Ce serait défaire la sortie d'Abraham. Imaginez qu'Isaac retourne à la famille du grand-père, la famille de Terach qui est encore là-bas, chez Nahor. Et puis que ça lui plaise et qu'il s'installe. Bon, il deviendrait le président de la fédération sioniste du temps, mais en Perse, imaginez. Bon, c'est clair. Première consigne, ne pas ramener Isaac d'où Abraham est sorti. Deuxième consigne, ne pas lui donner de femme du pays de Canaan. Ce que Esaü, le fils d'Isaac, fera par la suite et sera disqualifié. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il y aurait un mélange d'identités monstrueux. Il n'y aurait plus ni Canaan ni Israël. Est-ce que c'est clair? Nous avons une indication de cet ordre dans les causes profondes du déluge. Quand Dieu suscite la lignée de Cheth pour prendre en charge et transfigurer la civilisation de Caïn, il se produit une catastrophe. Les fils de la lignée de Cheth ont pris femme dans la lignée de Caïn. Et alors, il en résulte qu'il n'y a plus ni la lignée de Cheth ni la lignée de Caïn. Il y a une monstruosité qui est une sorte de mixte des deux. Il n'y a ni la civilisation humaine, ni la lignée messianique destinée à la transfigurer. Les fils de Cheth, c'est une chute pour eux, bien que pour les filles de Caïn, c'est une promotion. Elles enfantent, dit le texte, les nobles. Mais imaginez, dans une analyse sociologique, les fils des princes prenant des roturières. Alors, ils naissent des nobles, mais par rapport aux princes, c'est plus des princes, et par rapport aux roturiers, c'est plus des roturiers. Est-ce que c'est clair? L'analogie est un peu dure, mais vous comprenez.
Quand David est sorti de Ruth.
Pardon?
David, roi d'Israël, est sorti de Ruth.
Oui, mais qui est Ruth? C'est précisément cette sainteté hébraïque enfouie chez Lot. Lot, c'est l'ancêtre de Ruth. Qui finalement arrive à être transfigurée, épurée. Et alors, elle seule peut être l'ancêtre du roi David, c'est-à-dire du Mashiach. Elle ramène de l'extérieur, la lignée qui était la plus lointaine pour avoir été la plus proche. Nous retrouvons ça tout à l'heure, d'ailleurs, après la... Est-ce que c'est clair? C'est pas n'importe quelle convertie, Ruth. Elle ne vient pas de n'importe quelle lignée. Elle vient de cette racine de sainteté qui s'était détachée de la source et qui était tombée dans la plus grande impureté. Alors, essayons de percevoir spirituellement au moins le miracle du retour de Ruth. Ruth n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi on s'en occupe dans la Bible. Et en parallèle, c'est la femme de Moïse, Tzipora, qui vient aussi de Midian, l'autre descendance d'Abraham, après Ishmaël et Isaac. C'est clair? Oui, je veux dire, tout est clair dans ce récit. Mais il est tellement minutieux qu'il faut une maîtrise de tous les détails. Est-ce que c'est clair? Tzipora n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quelle étrangère que Moïse a épousée pour pouvoir être celui qui donnera la Torah. C'est la sainteté qu'Abraham avait laissée dehors, Abraham. Ruth n'est pas n'importe qui, c'est la sainteté de la famille d'Abraham restée dehors avec Lot qui revient. Voilà, c'est clair? C'est pourquoi on a l'habitude de faire une grande fête pour Ruth à Shavuot. Le jour où la Torah a été donnée, c'est la fête de Ruth. Je ne sais pas si vous savez cela. Et d'ailleurs, Ruth a un nom, il y a trois lettres de la Torah. Resh, Vav, Tav. Et vous ajoutez un hé, ça fait la Torah.
Est-ce que tu pourrais rappeler la filiation entre Abraham et Tzipora?
Par Midian. Midian est un des fils d'Abraham avec Keturah. Pour le Midrash, Keturah, c'est Agar revenu après sa teshuva. Et elle donne encore des fils à Abraham, dont un est Midian. Donc Midian n'est pas n'importe qui. C'est un des descendants d'Abraham. Une sainteté d'Abraham à l'extérieur d'Israël. Elle revient avec Sipora. Vous savez, c'est clair? De la même manière que Ruth n'est pas n'importe qui. C'est la sainteté enfouie, cachée dans l'identité de Lot qui revient en fin de compte lorsqu'elle est suffisamment transfigurée et c'est Ruth. Elle était cachée dans Lot. Et c'est à l'origine. Et c'est pourquoi Abraham va protéger Lot jusqu'au bout. Ça, nous le verrons tout à l'heure. Ça va jusque-là, vous voyez. Est-ce que ça commence à fonctionner un peu, ce schéma-là, okay? Top. Bon, c'est le schéma Israël, mais il n'est pas simple. Alors, prenez le verset 4 du chapitre 12, cette fois. Alors, dans les trois premiers versets du chapitre 12, Abraham a la promesse de bénédiction pour les familles de la terre s'il devient ce qu'il doit devenir. Verset 4, Vayelech Abraham, Kasher Diber El Avashem, et Abraham partit lorsque Dieu lui eut parlé, Vayelech Ito Lot, et Lot alla avec lui. Vous voyez, c'est très précis. Le commencement du chemin d'Abraham, au commencement, il est accompagné par Lot. Ils ont le même cheminement. Comme on dit en français, faire un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que ça se sépare. Okay. Et Abraham, ben Chameshanim, ben Shivim Shana, était âgé de 75 ans, Betsetom et Haran, lorsqu'il sortit de Haran, accompagné par Lot, dit le verset. Alors là, un verset 8 qui est important quand même, je vais l'approfondir. Vaïkach Abraham et Sarah Ishto, et Abraham prit Sarah et sa femme, mais on nous a déjà dit qu'il y a un personnage important qui accompagne Abraham, avant de parler de Sarah, c'est Lot. Vet Lot ben Achiv, et Lot, fils de son frère, Vet Kol Rechusham, et toute leur valeur, toute leur possession. Ce terme de Rechush est très important. Il y a des valeurs qui accompagnent l'homme. Et il y a des valeurs dans le monde, éparses dans le monde, qu'Abraham et la descendance d'Abraham sont chargés de sauver, de mettre à l'abri. Et lorsqu'on arrivera à la guerre des rois, où Abraham intervient pour sauver Lot qui s'était déjà séparé de lui, on verra que Abraham laisse en dehors un rechouche, ce terme va être employé, et lorsque il aura la prophétie que sa descendance sera étrangère dans un pays étranger, il y a ce terme de rechouche qui revient. Ils seront opprimés, mais ensuite ils sortiront avec un grand rechouche. Un des Midrashim, surtout dans la Kabbalah, mais c'est déjà dans le Midrash Rava, dit « Le rechouche qu'a laissé en dehors Abraham, il faudra descendre là où il est pour le ramener. » Et c'est avec ce rechouche qu'on construira le temple dans le désert. Alors, au-delà des valeurs matérielles, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les pots et les tapis, comprenons ce qu'il y a derrière. À l'origine de notre histoire, des valeurs ont été laissées dehors. Il faudra aller là où elles se trouvent pour les sauver. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Ça commence déjà ici. Le rechouche. Il y a une allusion que le mot de rechouche a les mêmes lettres que le mot de Koresh, Cyrus. C'est-à-dire, là où se trouve Cyrus, c'est là où se trouvent ses valeurs. Okay. Koresh, rechouche, c'est les mêmes lettres. Okay. Je referme la parenthèse. C'est-à-dire, après le temps du pharaon, ça sera le temps de Cyrus. Bien. des valeurs qui font partie de la sainteté d'Israël, mais qui sont restées en dehors depuis l'origine à cause des tribulations de l'exil. Lorsque les Hébreux étaient dans la situation d'Orcasdim, des valeurs de l'hébreu se sont perdues. Il faut les retrouver. Alors on est sur la piste de ce Rechouche. Où se trouve le Rechouche? Il faut aller. C'est ce que verra en particulier sur un autre registre, mais dans le même sens, Joseph dans ses rêves. Là où le blé pousse, il faut aller faire des gerbes. Effectivement, on apprend que le blé pousse en Égypte. Alors on descendra en Égypte. Vous voyez, c'est ce plaidoyer des Hébreux descendus en Égypte. Nous sommes marchands de grains. Oui. De grains de quoi? Je n'ai pas parlé du CNV. Oui. Mais, et alors, Joseph, patiemment, leur fait comprendre, oui, oui, il y a des valeurs à sauver. Vous êtes venu là pour ça. Oui. Bon, je referme la parenthèse encore. Mais il y a plus que ça. Il y a le rechouche, asher rachashu, veta nefesh, asher asu beharan, et les personnes qu'ils avaient faites à Haran. Alors, première lecture, ils avaient des serviteurs. Dans leur maison, il y avait des personnes qui leur étaient attachées. Je cherche un terme en français, les gens de la famille. Dans le sens latin de familias, de leur maisonnée. Mais le Midrash intervient. Qu'est-ce que c'est que ce nefesh qu'ils ont fait à Haran? Je vous lis la... en vous donnant la référence. Une minute. Alors je vais le voir dans Rashi. Une minute. Je n'ai pas ma loupe, alors une minute. Voilà, prenez Rashi sur le verset 5. Quelqu'un veut lire le Rashi en français à voix haute? Et les personnes qu'ils ont fait à Haran.
Les hommes qu'ils avaient fait à Haran, ils avaient fait entrer sous les ailes de la Shekhinah. Abraham amène à Dieu les hommes et Sarah et les femmes. Cela leur est prêté comme s'ils les avaient fait. Quant au chat, il s'agit des esclaves,
voilà.
Des servants qu'ils s'étaient acquis.
Voilà, vous voyez ce que dit le Midrash. C'est-à-dire Abraham et Sarah, déjà à Haran, donc ils étaient partis d'Ur-Kasdim, et à la frontière entre la Mésopotamie et le pays de Canaan, ils s'étaient installés, et là, ils avaient déjà commencé leur prosélytisme, si j'ose dire. Et ils avaient donc des disciples, des élèves, des convertis, dit le texte. Okay. Ils faisaient entrer sous les ailes de la Shrina. C'est la formule qu'on prononce au moment de la conversion, mais Rashi dit très clairement, Abraham megayer et à Anashim, Abraham convertissait les hommes, mais Sarah megayeret Anashim, et Sarah convertissait les femmes. Alors dans la Gemara, on a posé la question, que sont devenus ces guérim que Sarah et Abraham avaient fait? Ils sont perdus dans l'histoire. Et alors, c'est pourquoi vous avez une tradition que chaque fois qu'un guerre revient en Israël, c'est une de ces neshamot, si vous voulez, qui revient. Mais elle était déjà dans le principe de la famille d'Abraham. Est-ce que c'est clair? Vous avez entendu cela, je suis sûr. C'est un thème très important, c'est que la Torah ne parle pas des élèves des pères, elle parle des fils des pères. Et ces élèves des pères, les convertis des patriarches, disparaissent dans l'histoire. D'où cette tradition qui dit qu'ils reviennent. Un de mes maîtres disait, c'est tellement mystérieux qu'un non-juif veut devenir juif, c'est sûrement un de ses familiers d'Abraham. Est-ce que c'est clair? Bon, ça ne signifie pas que de n'importe quelle lignée au monde, même s'il ne s'agissait pas de la réincarnation d'une âme d'un esclave d'Abraham, d'un familier d'Abraham, le guéour, c'est un guéour kahalach. Je continue le verset 8. Ils sortirent donc de Haran pour aller en direction du pays de Canaan. Et ils arrivèrent en direction du pays de Canaan. Ils arrivèrent à Canaan. Yahavour Abraham Baret, et Abraham traversa le pays, Admekom Shrem, jusqu'à l'endroit de Shrem, ceux qui seront là ce soir, je parlais de Shrem en particulier, Ad Elon Moré, jusque Elon Moré, c'est maintenant une ville juive, un village juif. La Canaani, Azbaret, c'est le Cananéen, était alors dans le pays. De cette phrase, le Cananéen était alors dans le pays, est très importante. C'est-à-dire, c'est pas son pays, il occupait le pays alors, le Cananéen. C'est clair? Top. C'est le pays des Hébreux, vous vous rappelez la semaine dernière, nous avons étudié ça en détail. Et le Cananéen était alors dans le pays. Verset 7, c'est un verset très important. Vayera Hachem El Abraham, et Dieu se révéla, se montra à Abraham. Vayomer, et il lui dit, les Alracha à ta postérité, et ten et aret azot. Je donnerai cette terre. Vay bencha misbeach, et il construisit là-bas un autel, l'Hachem, pour Hachem Anira Elav, qui s'était révélé à lui. Ensuite, Abraham descend en direction du sud et fait un voyage en Égypte, parce que le texte, c'est au verset 10, nous dit qu'il y a une famine dans le pays. Verset 10. Vayi ra'a ba'aretz. Il y eut une famine dans le pays, Vayered Abraham Mitzraïma, et Abraham descendit en Égypte, la gour Sham, pour y séjourner là-bas. La gour, vous connaissez ce terme, ça veut dire séjourner provisoirement. C'est pas qu'il quitte Canaan pour s'installer en Égypte, il est obligé de quitter Canaan, pour les raisons que le texte dit, pour séjourner en Égypte. Kikaved Alahar Baretz, car la famine était lourde dans le pays. Et il descend avec Lot. Et c'est là que lorsque les Égyptiens voient la femme d'Abraham, se produit cette scène qui nous est racontée pour la première fois. Ensuite, Abraham remonte de l'Égypte avec Lot. Entre-temps, et là nous sommes arrivés au chapitre 13, entre-temps, il y a un progrès moral dans l'identité d'Abraham, que j'ai signalé en passant tout à l'heure. Il est déjà capable de dire de sa femme qu'elle est sa sœur. Vous voyez, l'identité hébraïque qui commence à émerger de l'écorce araméenne. C'est clair? Ça ne se passe pas chez Lot. Donc, Lot et Abraham remontent de l'Égypte avec déjà une différence qui est notée par cette parenthèse historique. La Torah nous a raconté le voyage d'Abraham et de Lot en Égypte, au fond pour nous raconter que cela, que c'est l'épisode où Abraham et Sarah sont en épreuve d'identité. Est-ce qu'il y a un progrès au niveau de la relation à autrui? Problème qui est posé à l'homme depuis le premier homme. C'est clair? Bon. Alors, je continue le texte. Vers Abraham, Kaved Meod, verset 2. Abraham était chargé de valeurs remportées de l'Égypte, les cadeaux du pharaon de ce temps à Abraham. Vers Abraham, Kaved Meod, et Abraham était très important, Bamikne en troupeau, Bakesev ou Bazav en argent et en or. Bayelir le Massav, et il alla d'étape en étape. Oh là, je voudrais vous ouvrir une parenthèse avec Rashi, une minute. Prenez Rashi, là, Bayelir le Massav. Prenez Rashi sur le verset 3. Keshe Hazar mi Mitzraim, lorsqu'il est revenu de l'Égypte, l'Eretz Knaan, au pays de Canaan, Ayaholech Velan, il allait et il passait la nuit, Bersaniot, dans les auberges, Shelan Bahem Bahalichato, où il avait passé la nuit lorsqu'il était descendu en Égypte. Le Bahalichato, le Mitzrayim, lorsqu'il était allé en Égypte. L'Amdecha de Recheretz, cela nous apprend une règle de politesse morale, Shelo Ishane Adam Bersania Shelo, que l'homme ne doit pas changer les auberges, mais enfin ça veut dire. Arsania Shelo, c'est. C'est rien? Non, pas les cheminements, les endroits où il a été hébergé. Arsania, ça veut dire là où on est hébergé, d'où auberge, je suppose, en français. Ma? L'Égypte, oui. Voilà ce qu'explique le Midrash. Il était familier. Lorsqu'il est descendu en Égypte, il était reçu dans certaines étapes. Il les connaissait. Lorsqu'il revient, c'est là qu'il doit aller. Et je vous donnerai une première explication à ce niveau. Et le Midrash ajoute, pour remercier de l'hospitalité qu'il avait reçue en descendant en Égypte, c'est là qui il a séjourné lorsqu'il est revenu de l'Égypte riche. Bon, d'où règle que cite Rashi, une règle de l'enseignement du Midrash, qu'il ne faut pas changer ses paysages familiers. Je ne sais pas comment dire ça. Bien.
Quand il est descendu, il y avait la famine.
Il y avait la famine, donc il a été.
Ils
lui ont fait du bien.
Voilà.
Alors il est revenu pour dire merci. Alors il était riche. Cela est impliqué, mais surtout la vertu morale qui est indiquée ici. Bien. Alors les kabbalistes ont expliqué cela dans un mouvement très important. Je voudrais une petite parenthèse dans ce vocabulaire. C'est que la sainteté revient toujours là où elle avait été une fois. Lorsque, pour situer une place pour loger le monde, il y a un retrait de la présence de Dieu de l'absolu, le résultat est la place où seront situés les univers. Alors, la lumière qui s'est retirée pour laisser place au vide du monde, pour que le monde puisse y être créé, s'est retirée d'étape en étape. Et elle a laissé une trace, que les kabbalistes appellent le réchimou, la trace de la présence antérieure. Eh bien, elle revient d'étape en étape. Oui, c'est le même geste. De là d'où la sainteté s'était retirée, là, elle reviendra. Il y a une analogie, enfin un parallèle entre ces deux enseignements, je tenais à vous le signaler. Ça veut dire que ce n'est pas un détail privé de sens que le Midrash nous indique ici. Pourquoi le verset nous a dit « Vayelech le Massarab » et il alla suivant les étapes qu'il avait déjà traversées. C'est une règle très importante. Il remet ses pas, ses pieds, là où il les avait déjà, mis. Ainsi, lorsqu'il y a un retour, il faut reconstruire le passé dans les étapes dans lesquelles on l'avait quitté. Bon, je referme la parenthèse. Minegev et Bethel, depuis le sud jusqu'à l'endroit de Bethel, Adamakom, Asher et Hashamaholo, là où primitivement sa tente avait été plantée. Batechila, auparavant, Ben Bethel ou Ben Arai, entre Bethel et Arai, El Mekom Amizbeach, à l'endroit de l'hôtel Asher Asacham, qu'il avait érigé là-bas, Barishona au début, Vaikrasham Abraham Beshem Hashem, et là, Abraham invoqua le nom de Hashem. On arrive au verset 5. Vegam le Lot, et même à Lot, à Holech et Abraham, qui allait avec Abraham, Hayat Sonubakar Vehalim, il y avait des troupeaux et des tentes. Et la terre ne pouvait pas les porter de résider ensemble. Mais la terre n'était pas assez grande pour les deux. De nouveau, le problème de la relation d'altérité qui va se poser, on reprend la même équation que Caïn et Abel. Là, ils étaient seuls sur terre et la terre n'était pas assez grande pour eux deux. Que va-t-il arriver ? Qui haya rechusham rav, car leurs possessions étaient nombreuses, et ne pouvaient pas résider ensemble. Verset 7, Vahi rib ben roé mikne Abraham ou ben roé mikne Lot. Et il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et je vous restitue le raisonnement du Midrash. Quel est l'objet de cette querelle? Le texte ne le dit pas. Alors le Midrash nous mène à raisonner de la manière suivante. Qu'est-ce que ça peut être une querelle de bergers? C'est la manière, une querelle sur la manière dont on est berger. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être berger? C'est faire paître les troupeaux dans les champs. Que pouvait être une querelle entre les bergers d'Abraham et le berger de Lot? Et l'initiative de la querelle vient des bergers d'Abraham. Regardez bien l'ordre du récit. Il y a une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. C'est clair. Chaque fois qu'on cite une marloquette, c'est celui qu'on cite le premier qui est en marloquette avec le second. Par exemple, la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. La halakha ancienne était comme Bet Shammai. La marloquette commence quand Bet Hillel demande le chidouj de la halakha parce que le temps a changé. C'est Hillel qui est en marloquette avec Shammai. Est-ce que c'est clair jusque-là? Okay. Controverse. Et donc, ce sont les bergers d'Abraham qui ont l'initiative de la querelle. Alors, le raisonnement du Midrash est très simple. Les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux dans les champs, dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Et les bergers d'Abraham les querellaient. Alors ça signifie que les deux ont l'identité de berger. Berger, c'est le pasteur, celui qui s'occupe d'autrui. Les deux ont la capacité d'être frères, comme nous allons le voir immédiatement. Mais l'un tenant compte des règles de la morale, l'autre ne tenant pas compte des règles de la morale. Ça veut dire, cette identité, Lot, Abraham, est à l'origine la même, la capacité de l'être frère. Mais voilà que, immédiatement, apparaît un critère de séparation. Lot dans l'impureté, Abraham dans la pureté. Mais ce n'est pas rien, cette capacité d'être frère, pour le récit biblique. Depuis que Caïn avait supprimé Abel, le mot de frère avait disparu du verset. Or, qui était Abel? Qui était le frère de Caïn? Il était le berger. Vous vous rappelez de cela? Non. Alors on cherche qui est capable d'être berger? Abraham et Lot. Seulement voilà, il y a une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot à cause de la manière d'être berger. Ou pour reprendre, si vous voulez, l'expression assez connue, il y a les mauvais bergers. Ce sont des bergers, mais des mauvais bergers. Il y a les faux frères. Ce sont des frères, mais des faux frères. Voilà ce drame qui se noue. Lot et Abraham sont capables d'être frères. Et cette identité qui ressurgit au moment où recommence l'histoire des Hébreux va se séparer par rapport aux critères de la moralité. Vous voyez, apparemment, un midrash anodin donne la clé de cette séparation. C'est clair jusque-là? Mais il y a progrès. On ne va pas se supprimer comme Caïn Abel, on va se séparer. Alors nous allons suivre cela. Mais avant cela, je vous donne une référence dans l'histoire de Moïse. Moïse aussi est soumis à l'épreuve du berger. Et avec les mêmes caractéristiques, Dieu cherche qui est capable d'être berger dans les critères de la pureté. Et il trouve Moïse. Dans quelle scène? Vous allez avoir la référence dans le début du livre de l'Exode. Je vous donne ça tout de suite. Au moment de la vision du buisson ardent d'ailleurs, ça doit être... Le chapitre 3, quand il est à Midian, oui. Voilà. Le chapitre 3 de l'Exode, dont c'est la référence, à partir du verset... le verset 1. « Où Moshe haya roé et sonitro hotno kohen Midian » Et Moïse était berger, faisant paître les troupeaux de Jethro, son beau-père, prêtre de Midian, Vainhag et Tatson Ahar Amidbar. Et il dirigeait le troupeau en arrière du désert, derrière le désert. Cette indication du verset Ahar Amidbar, le Midrash l'explique ainsi, Rashi le cite, une minute. Leitrahek mina gezel, pour s'éloigner du vol, Shelo Irou Bisdot Aherim, afin que les troupeaux ne pèsent pas. C'est comme ça qu'on dit, hein, ne pèse pas dans des champs qui appartiennent à d'autres. Vous voyez? Alors, on lit dans le Midrash ces deux indications. L'objet de la querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, c'est la vertu de Moïse en tant que berger. Est-ce que c'est clair? J'insisterai uniquement sur cette formule. Je crois que beaucoup de courants dans les traditions humaines humanistes ont été des courants de fraternité. Mais la question est de savoir s'il y a moralité ou pas. Le courant de fraternité, c'est abrahamique, si j'ose dire. Et très souvent, les juifs ont été séduits par ces courants humanistes qui apparaissent comme des courants de fraternité et n'ont pas toujours perçu s'il s'agissait d'une fraternité selon Lot, mon frère, mais dans l'impureté, ou d'une fraternité selon Abraham. Bon, inutile de mettre les points sur les i, vous reconnaissez énormément de courants de civilisation qui ont séduit la conscience juive par la forme extérieure de la camaraderie. Vous savez, là on s'appelle camarade, par exemple. Et, ou même des dénominations beaucoup plus précises, mon frère, ma sœur, c'est une exigence de fraternité, mais y a-t-il la moralité? Y a-t-il la pureté? Et alors, c'est ces mouvements de civilisation terribles qui consistent à tuer son frère pour lui apprendre à vivre, à la limite. Bien, je crois que c'est suffisamment clair. Vous voyez, le courant de Lot, C'est une fraternité d'origine abrahamique, mais dans l'impureté. Alors, partout où est Lot, c'est l'autre qui se trouve. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Que la terre était trop petite,
est-ce
qu'il faut le prendre à la
terre? Oui, tant la relation de fraternité ne peut pas s'installer, si vaste soit la terre, il faut se séparer. La même planète ne peut pas supporter les deux hommes qui ne sont pas en fraternité. Je crois que c'est le drame de l'histoire du monde depuis l'origine et jusqu'au temps messianique. Les hommes sont des frères. La terre ne les supporte pas, ne les porte pas ensemble. Dès qu'il y a deux hommes, il y a la guerre. Et je crois que c'est à la fois tellement gigantesque et facile à percevoir. Il m'arrive de lire des livres de science-fiction, et il y a un thème qui revient toujours. Vous savez, la science-fiction, c'est le midrash moderne. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un peu de ça. Bon, il y en a beaucoup qui sont très très mal écrits, mais il y en a de temps en temps qui sont... Citre Torah. Et alors, vous devinez tout ça, vous. Eh bien, ce thème qu'il faudrait un péril qui vient d'une autre planète pour que les hommes se retrouvent unis. Vous voyez à peu près ? C'est-à-dire, ils sont frères, mais d'une fraternité impossible. Nous allons voir comment Abraham intervient pour dire on se sépare. Mais je crois que là, il faut aller à l'essentiel avec le Midrash, le Sitrash. Le critère de la séparation, c'est cette exigence qui peut aller même sur vers une spiritualité parallèle, se ressemblant, analogue, mais le fond est radicalement différent, parce que d'un côté il y a immoralité, et de l'autre il y a moralité. C'est ce que je vous répète très souvent, mais je crois que c'est suffisamment clair. Ce qui différencie...
C'est que les deux sont sur une terre étrangère qui ne leur appartient pas encore.
Oui, eh bien, très bien. Alors, je vais lire la fin du verset, ce que dit Rachel à ce sujet. Très bien. C'est pourquoi, je vous donne le raisonnement, c'est pas la peine de perdre trop de temps. Et je reprends votre vocabulaire. Ils ne sont pas sur une terre étrangère, ils sont sur leur terre. Mais elle est occupée par des étrangers. Ils ne l'ont pas encore rachetée, obtenue. Le raisonnement est le suivant. Les bergers de Lot disaient ceci. Lot est de la famille d'Abraham. On vient d'entendre que cette terre appartient à Abraham. Alors elle appartient aussi à Lot. Et alors, tous les champs, c'est à nous. Remarquez la stratégie d'Israël par rapport à sa terre. Il la rachète alors que c'est la sienne. Ça, c'est les descendants d'Abraham. Les descendants de Lot, c'est par exemple, lorsqu'on exproprie des terres occupées par des étrangers, dans ce cas c'est les Arabes, et qu'on ne veut pas les restituer. C'est un grand drame pour les kibboutim de la gauche, qui en 48 ont exproprié des terres arabes, sont installés dessus et ne veulent pas les restituer. Ça vous surprend ce que je vous dis là, Ken, mais nous avons des problèmes politiques en Israël à cause de cela. Alors on impute au Gush Emunim le fait de s'être installé sur des terres étrangères, alors il s'est installé sur des cailloux rachetés aux Arabes, alors que la majorité des kibboutzim de gauche sont sur des terres arabes qui ont été expropriées sans dédommagement. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Donc, vous voyez le drame de... Alors, on est en plein dans le problème que cite ce Rashi. Alors, vous l'avez dans votre verset, « Ve'a kena'ani ve'a perizi az yoshev ba'aret » Le même verset, au moment de la querelle. Sur quoi portait la querelle? Alors, le Cananéen, le Périséen, était installé dans le pays. Et les bergers de Lot disaient, mais les champs des Cananéens et des Périséens, c'est à nous. Par conséquent, pas question de... Regardez, aujourd'hui, la législation israélienne contemporaine tient compte de cela de façon inconsciente. Okay? À l'étranger, ça peut paraître incompréhensible. Pourquoi les tribunaux israéliens sont tellement sourcilieux du droit de possession des terrains, alors qu'il s'agit de deux nations en guerre, etc. Vous avez remarqué cela? Donc, Ken, si vous lisez les journaux israéliens, il ne se passe pas de semaine, tant qu'il n'y a pas un procès où des Arabes se plaignent au tribunal suprême, parfois en inventant des pièces qui n'existent pas, Ken, mais on les discute sérieusement. Et moi, je suis toujours impressionné de cela, c'est que la législation israélienne n'a rien à voir avec les thèses de la Torah, mais elle fonctionne comme ça. Et vous avez compris ce que je veux dire?
J'ai été témoin à propos de ça, il y a une dizaine d'années, de gens qui habitaient en Égypte il y a très longtemps, qui avaient acheté autour de Jérusalem des terrains et dans les territoires occupés,
oui.
Et puis s'adressant ici les Parisiens. Au consul général d'Israël de l'époque, le chat succède très vite. Le consul leur a répondu, plus tard on verra, actuellement c'est trop épineux, on a les titres de propriété, putain, où ces juifs étaient en Égypte, donc avant Farouk. Et le père de ce monsieur qui habite Paris a demandé au consul général d'Israël, il dit c'est très très épineux, ça on ne peut pas soulever la question tout de suite, oui vous avez raison, vous avez les titres de propriété, vous avez acheté, mais actuellement nous avons de grands problèmes.
Oui. Bon, je vous signale ça en passant, c'est pas tellement le sujet, mais c'est très frappant à quel point c'est parallèle. Il est très bien fait de poser la question. Et ça veut dire que les bergers d'Abraham, dit le Midrash, querellaient les bergers de Lot parce qu'ils occupaient des champs qui appartenaient aux Cananéens, aux Phérisiens, qui étaient des usurpateurs, qui étaient des conquérants. Mais je crois que c'est le seul cas dans l'histoire du monde où un peuple revenant chez lui re-achète la terre de ceux qui l'ont spolié. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je pense que c'est clair. Bon, c'était le miracle des troncs du cacaël. Les troncs du cacaël qui ont permis au peuple juif de racheter sa terre. Est-ce que c'est clair? Donc, y a peut-être là une vertu exagérée, mais en tout cas, elle est ce qu'elle est. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a très très longtemps, j'ai discuté avec l'ancien maire de Natania, qui était chargé, dans le début du siècle, d'acheter toute la bande de terrain entre Gaza et Naharia, là où il y a Tel Aviv, là où il y a Ashkelon, etc. C'était du sable. Et il négociait cela avec les chers arabes qui possédaient ces bandes de terrain. Il leur avait demandé, mais pourquoi vous demandez une somme aussi exorbitante pour acheter du sable? Je cite ça pour vous dire que le KKL a acheté la terre où on a installé les juifs, sauf dans énormément de cas d'expropriation à cause de faits militaires, à cause de guerre. Vous avez sûrement entendu parler de ces problèmes. Et alors, oui, il y a des kibboutzim. Et alors, le cher arabe lui a répondu, de toutes les façons, on sait que c'est à vous, mais on vous a gardé ce pays pendant des siècles, maintenant payez le gardiennage. Okay. Mais en tout cas, je crois que ça mérite d'être signalé, cela. Je ne crois pas qu'il existe un cas dans l'histoire du monde où... Je crois même pas que l'Amérique a acheté l'Amérique aux Indiens. Okay? Et pourtant, les Indiens étaient eux chez eux, et non pas l'inverse. Okay? Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de ça? Non, je crois que c'est quelque chose que tout le monde sait, mais que... Tout le monde sait que le peuple juif a réacheté le pays en rentrant chez lui après 2000 ans. Et à qui l'a acheté? À l'exemple que vous dites. Énormément de terres occupées par les Arabes étaient des terres prises aux Juifs qui vivaient d'ici une centaine d'années. On a retrouvé des titres de propriété de la plupart des terrains de Hebron, de Juifs qui appartenaient à des familles juives nord-africaines d'ailleurs. Et puis seulement, puisque c'est occupé par les Arabes, alors c'est intouchable. Bien que... Bon, je referme la parenthèse. Top. Et alors, indépendamment des autres dimensions du problème, c'est déjà indiqué dans le texte, comme vous dites d'après votre question. C'est exactement ça. Alors, j'avance un peu avant la Saka. Vayomer Abraham et Lot. Alors, Abraham dit à Lot, « Alna tehi meriba beni ou bencha, qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi. » Ou ben ro'ay, ou ben ro'echa, et entre mes bergers et tes bergers, qui anashim ahim anachnu, car nous sommes des hommes frères. Vous voyez ce que Abraham dit à Lot. Or, ils ne sont pas frères. L'un est le neveu, et l'autre est l'oncle. Mais le Midrash dit, nous nous ressemblons comme des frères. Ça, c'est ce qu'indique le Midrash. Quand on voit Lot, on croit voir Abraham. Quand on voit Abraham, on croit voir Lot. Alors Abraham dit, il faut se séparer. Et j'ajoute donc l'indication de tout à l'heure, plus profondément, ça veut dire nous sommes d'identité frères. Nous sommes l'un et l'autre des êtres frères. Mais il y a les frères et les faux frères. Alors il faut se séparer. Jean. Comment ? Et c'est le cas maintenant. Absolument. Ah, mais je ne parle pas des juifs et des arabes. Je parle des juifs et des juifs. Ishmaël, c'est pas le frère. Donc, on dit cousin. Bon, on a déjà eu des cousins germains. C'est un autre problème. Je crois qu'il y aurait une erreur de prendre l'équation juif-arabe comme une équation de frères ennemis. Ce sont des cousins. C'est pas la même chose. Ici, l'indication. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Non, absolument pas. Nous sommes les descendants de Jacob, fils d'Isaac. Et ils sont les descendants de Abraham, avant qu'il ne soit Abraham, par Agar. C'est vraiment une autre lignée. Et en hébreu, c'est les mêmes lettres, arabe et hébreu. Arabe, je crois que quelqu'un m'a posé la question, c'était toi. Arabe et ivri. Si vous voulez, on parlera de ça demain plus en détail, on aura plus le temps, je voudrais parler de l'autre. C'est, si vous voulez, à un niveau littéraire, on pourrait rattacher ça à ces catégories, mais pas ontologiquement. C'est entre Jacob et Ésaü qu'il y a une relation de frère, pas entre de frères séparés, mais pas entre Ishmaël et Isaac, c'est une relation de cousin. C'est ce que j'avais dit à mon maître quand je l'ai rencontré il y a 40 ans. Il m'a dit, tu sais pas lire. Et je vais vous raconter ça. Une des premières fois où j'ai rencontré mon maître, le premier maître ashkenaz que j'ai eu, M. Gordon, Sikronori Bracha, origine de Russie, on étudie à l'Agada de Pessah, et on arrive à Shefor Hamatecha El Agoyim, Asher Lo Yedaoucha, on dit ça c'est Ishmaël. Quand Ishmaël, c'est Esav. Exactement ce que vous dites. Et moi j'arrivais des pays musulmans, et lui de Russie. Il dit non, regarde les textes. Et alors, il montre bien cela, que j'employais un mot anachronique. L'antisémitisme d'Ishmaël, c'est un mot anachronique, ce sont des sémites aussi, comment dire l'antijudaïsme, c'est de l'antisémitisme. L'antisémitisme d'Ishmaël vis-à-vis d'Israël est plus terrible que celui de Esav vis-à-vis de Jacob. Étonnant, l'étonnement que vous dites. Petite parenthèse, Albert Memmi, dans un livre sur juifs et arabes, a mis les choses au point. Maintenant, il y a une légende. Que les juifs étaient heureux chez les arabes, et Albert Memmi n'est pas suspect de rien là-dessus. Okay. On dit c'est une légende. Ça ne signifie pas que les juifs ashkenazim n'ont pas en quantité, en massivité, plus souffert que les juifs sfaradim. Et encore, quand je dis sfaradim, les sfaradim ont vécu la Shoah autant que les ashkenazim en tant qu'ils étaient des sfarades d'Europe. Okay. Vous savez que la grande communauté sfarade de Salonique, et non seulement cela, non seulement les Saloniciens, même un certain nombre de communautés d'Afrique du Nord qui ont été touchées au moment de la guerre, surtout en Tunisie, et les autres étaient voués au même sort. J'étais moi-même sur une liste d'otages à quelques jours près, c'est anecdotique. Et tous les Juifs auraient passé dans la Shoah, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans l'Empire chrétien, les Ashkenazim, en quantité, ont subi les croisades et les massacres de façon massive, l'Inquisition, etc. C'est un autre problème. Alors, M. Gordon disait ça comme ça. Si ça vous intéresse, on fera ça demain. L'antisémitisme d'Ishmaël, qui est appelé dans les textes Achzar, cruel. Achzar. Et Achzar, c'est l'étymologie du Midrash, Achzar, uniquement étranger. Achzar. Oui, vous entendez en hébreu ? Et Achzar, ça veut dire cruel. Et pire, on dit, mais pourquoi ? Et nous étions persuadés. Moi, j'arrivais juste après la guerre, mais j'arrivais d'Afrique du Nord. On oubliait qu'on était sous la protection des pays d'Europe, sous la protection de la police française au Maroc, les Marocains pouvaient vivre avec les sous la protection d'eux. Okay. Bon. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé au Yémen. Je ne peux pas vous décrire, il nous faudrait trop de temps, quelle est la situation de la communauté juive au Yémen pendant des siècles, en souveraineté islamique. Demandez aux Yéménites. Okay. Et demandez aux Marocains qui connaissent encore leurs grands-parents comment c'était avant les Français. Okay. Surtout au Maroc. En Algérie, en Tunisie, c'était moins grave. Mais au Maroc, ça a été épouvantable. La situation des Juifs marocains au Maroc avant que la France arrive. Et alors aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes intellectuels juifs originaires du Maroc qui sont dans un véritable mythe. Okay. Et je referme la parenthèse.
Positif. Mais la Syrie d'Israël, c'est très bien. Oui, c'est juste. Mais c'est juste. C'est...